J'avais promis une intervention sans support, mais en bonne académique, j'ai préparé les transparents, mais que je ne vais pas vous montrer. Donc, je n'ai pas participé, moi, aux différents ateliers sur ces promesses. Et alors, du coup, je suis revenu un petit peu en arrière, pas seulement à celle-là, qui est la nouvelle version, en fait, mais aussi à la première, en fait, dont le titre était « Une expérience plus humaine des technologies ». Et je me suis demandé, en fait, ce qui avait pu conduire à cette promesse, pourquoi elle avait été faite, pour qui, et ce qui se cachait derrière. Donc évidemment, quand on fait une promesse, c'est à destination de quelqu'un, et c'est en général en réponse à quelque chose. Vous me demandez un truc, je ne l'ai pas, je vous le promets pour le futur. Et donc je me suis demandé, mais qui était le destinataire de la promesse, et quel était le changement profond et positif visé, puisque c'était ça le terme qui était dans le cahier. Alors le public n'est pas spécifié du tout, et je trouve que c'est intéressant que cette promesse dans le cahier est une des rares pour laquelle il n'y a pas de scénario avec un truc qui vous dit « Geneviève, 68 ans, va faire ses courses, tralala ». Il n'y a pas d'instance de public dans cette promesse-là. Donc le public, a priori, c'est tout le monde, vous, moi, et tous ceux qui ne sont pas là. Alors ensuite, l'objectif, donc quel est le changement profond visé? Donc le titre, hein, c'était « Une expérience plus humaine ». Donc ça parle d'expérience, donc a priori l'objectif visé est en rapport avec l'expérience. Il y a un plus, donc on se dit qu'on veut combler un manque, ou on veut en tout cas améliorer l'expérience. Alors l'expérience dans le monde d'où je viens, c'est quelque chose qui a une définition assez précise et assez pénible en fait, c'est dans une norme ISO. Mais ça a un rapport avec ce qu'on perçoit et ce qu'on fait. Et donc l'expérience chez nous est définie comme les perceptions et réponses d'une personne résultant de l'utilisation ou de l'anticipation d'utilisation d'un produit, système ou service. Je vous avais dit que c'était assez barbant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a un rapport avec ce que je perçois et ce que je fais, enfin ce que la personne perçoit et fait. Et donc quand on vise une meilleure expérience, c'est que quelque part, ça traduit un certain malaise ou une insatisfaction avec l'expérience du moment. Et ça c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans le titre de l'ancienne promesse, c'était une expérience donc plus humaine. Donc ça, c'est le moyen qui est imaginé pour atteindre l'objectif. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je ne comprends pas, en fait. Pourquoi une approche anthropomorphique, pourquoi plus humain? Donc du coup, j'en viens à, je vais faire un j'aime pas, j'aime sur cette promesse-là, et puis j'aime pas sur la nouvelle. Donc ce que j'aime pas dans l'ancienne formulation... Donc une expérience plus humaine des technologies, en premier lieu, c'est le narcissisme. Donc il y a un chanteur brésilien, Caetano Veloso, qui a écrit une belle chanson dans laquelle il dit que Narcisse n'aime pas, enfin trouve laid tout ce qui n'est pas miroir. Et c'est un peu ça, là, pour moi. C'est à partir du moment où on trouve l'expérience insatisfaisante, le premier réflexe, c'est peut-être de se dire qu'effectivement, ça ne marche pas parce que la machine n'est pas comme moi, et que si elle était comme moi, ça marcherait mieux. Je pense que c'est un réflexe assez primaire, mais justement, il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin que ça. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi il faudrait faire des machines à notre image, et je ne comprends pas, du coup, pourquoi la technologie devrait devenir plus humaine, pourquoi l'expérience devrait devenir plus humaine pour être meilleure. Je ne comprends pas non plus, dans ce qui est décrit dans le cahier, un espèce de culte de la nouveauté technologique. Donc il y a une phrase qui m'a fait bondir, c'est dans la liste « ça nous a surpris », il est dit « La lenteur de l'évolution des paradigmes technologiques, l'interface fenêtre ou souris a plus de 30 ans. » Oui, et le volant de la voiture a plus de 100 ans. Et pourtant, on n'a pas l'impression que tout le monde considère que c'est une mauvaise chose. Donc je veux dire par là que ce n'est pas parce que quelque chose est vieux qu'il est forcément mauvais. Voilà, il y a des choses qui ont été inventées qui sont juste efficaces pour ce pourquoi on les utilise. Mais je reviendrai un petit peu après sur cette histoire de clavier-souris. Il y a une autre chose que je n'aimais pas, c'était un certain mythe de la perfection toujours possible. À un moment donné, il est dit « les technologies numériques demeurent très sujettes aux pannes et ceux qui les produisent n'en assument pas la responsabilité ». Donc, en tant qu'informaticien, je peux vous dire qu'il est très difficile de prouver que quelque chose est correct. Et c'est d'autant plus vrai quand le système en question est interactif et encore plus quand il y a des gens en face qui ne vont pas se comporter comme on a pensé qu'ils allaient se comporter. Donc c'est extrêmement difficile de construire quelque chose qui soit par construction correcte. Et donc, attendez-vous à ce que les choses informatiques tombent en marche, en fait. Elles ne tombent pas en panne, elles tombent en marche. C'est miraculeux quand ça marche. Et réjouissez-vous que ça marche si souvent, finalement. Ensuite, un autre point que j'aimais pas, c'était que finalement, c'était une promesse sur l'expérience, mais avec un focus exclusivement, quasiment sur la technologie. C'était « la technologie sait faire ça, la technologie demain saura faire ça ». Et puis avec un peu d'aspects environnementaux sur des évolutions économiques ou sociétales. Et en fait, quand on parle de tout ça, on ne parle pas d'expérience, on ne parle pas des gens et on ne parle pas de ce qu'ils ressentent ni de ce qu'ils font. Alors il y avait quand même quelques bons points, j'en ai trouvé au moins deux, dans cette ancienne promesse. Il y avait d'abord la reconnaissance du difficile compromis puissance-simplicité. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on connaît bien. Voilà, il y a des choses très simples mais qui font rien, et puis des choses très puissantes mais qui sont très complexes. Et ça, c'est vraiment un problème. Et puis un autre problème qui était clairement identifié, dont on a déjà un petit peu parlé finalement, c'est le manque de temps, et notamment le manque de temps pour réfléchir. Alors il y avait quand même une phrase qui disait « Le numérique semble tout entier tourné vers l'action, et j'ajouterais vers l'action inutile, en fait. » Souvent, c'est ça l'impression qu'on a, c'est qu'on doit faire beaucoup de choses pour un résultat qui n'est pas si intéressant que ça. Et là aussi, je reviendrai là-dessus. Alors donc sur la nouvelle formulation, donc c'est celle qui est là. Et donc alors on a perdu un petit peu le côté plus humain, mais il y a encore l'humain, et surtout donc c'est les technologies qui expriment les aspirations et les valeurs. Alors là ce coup-ci je vais commencer par ce que j'aime bien dans celle-là. Changer un peu. D'abord je suis à peu près d'accord avec tous les objectifs de conception qui ont été montrés dans la vidéo. Donc par exemple donner plus de capacité aux humains plutôt que de les remplacer. Les aider à atteindre de nouvelles frontières, multiplier et enrichir les interactions et collaborations entre eux, les aider à faire preuve de résilience quand la technologie est en échec, alors que je n'ai pas dit quand elle tombe en panne, puisque je vous expliquais qu'elle tombait en marche, et puis rendre l'accès et l'apprentissage aisé. Donc tout ça, c'est des objectifs que moi, et je pense la plupart des gens, en tout cas de mon morceau de l'informatique, de la recherche en informatique, partagent. J'aime aussi l'appel à aller au-delà du simple et du naturel. Et donc l'idée de... Alors oui, dans le texte, ça dit capacitation, mais en fait, quand on cherche ça en français, on trouve des trucs qu'on n'a pas envie de trouver. Donc je dirais donner du pouvoir, ça me paraît pas mal. Voilà, donc... Parce qu'effectivement, les choses simples sont simples. Elles sont des fois inutilement compliquées dans leur mise en œuvre informatique, mais finalement, ce n'est pas forcément ça le plus intéressant. Le naturel, je n'ai pas trop le temps d'expliquer, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Notre état naturel, c'est pieds nus, chasseurs-cueilleurs, pas devant une machine. Donc ça n'a pas vraiment de sens de réfléchir à ce qui est naturel dans l'interaction avec la machine. Et par contre, l'idée de pouvoir est intéressante, de donner le pouvoir. J'aime bien l'idée de l'appel à l'investissement dans l'anthropologie, l'ethnographie, la sociologie. Juste, je m'interroge sur le but, c'est-à-dire est-ce qu'on veut financer des études d'usage, ce qui moi m'intéresse pas trop parce que c'est des choses a posteriori, ou est-ce qu'on veut plutôt financer des choses qui alimenteraient la conception, ce qui m'intéresserait déjà beaucoup plus. J'aime beaucoup le projet Je décide dont on n'a pas parlé là, mais au moins pour son titre et son esprit général, parce que je pense que voilà, ça résume assez bien en gros l'état d'esprit dans lequel moi je suis, c'est-à-dire que je veux être en contrôle de ce qui se passe ici. Et en tout cas, je pense qu'il faut, il faut s'interroger sur les choses qu'on délègue et les choses qu'on fait soi-même à travers la machine, et sur la différence d'approche entre un partenaire intelligent ou un outil qu'on utilise. Évidemment, je peux être que d'accord avec l'appel à l'éducation de tous au numérique, comme on l'a vu dans la vidéo, mais là aussi, ça pose beaucoup de questions. Donc, éducation par qui, où ça, comment ? Voilà. Alors, sur ce qu'il faudrait faire, puisqu'on m'avait demandé aussi de me projeter dans l'action, donc moi je pense que la première promesse originale regardait du mauvais côté, en fait, puisqu'elle parlait d'expérience, mais elle regardait la technologie et pas les gens. Donc il faut regarder les gens. La deuxième promesse... peut-être je suis passé un peu vite, j'ai peut-être pas dit ce que je n'aimais pas. Ah oui, la deuxième promesse, ce que je n'aimais pas. D'abord, l'idée d'une technologie qui exprimerait des valeurs humaines. En fait, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc il y a un historien, Melvin Kranzberg, qui a énoncé une série de lois. Et la première de ces lois, c'est la technologie n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Et en fait, tout dépend de ce qu'on en fait et du contexte dans lequel on le fait. Et il citait par exemple le DDT, qui est à la fois un poison, mais en même temps permet de diminuer les risques de malaria dans certains pays. Et puis, il y a une autre de ces lois qui dit que les facteurs techniques l'emportent généralement dans les décisions politiques sur la technologie. C'est-à-dire que même si on croit qu'il peut y avoir une valeur intégrée dans la technologie, en fait, souvent, les décisions sont prises de toute façon indépendamment de la technologie. Et il n'y a qu'à regarder ce qui a été fait sur Adopi pour s'en convaincre, par exemple. Donc, moi, je ne crois pas trop à cette histoire de technologie qui exprime des valeurs. Je pense que c'est une grave erreur, en fait, de parler d'une technologie qui exprimerait des aspirations. Je ne veux pas d'une technologie qui exprime des aspirations, je veux une technologie qui réponde à mes aspirations. Il y a aussi, dans cette promesse, une méprise possible, ça a été évoqué dans la vidéo, sur la bidouillabilité, on va dire. Il faut que ça soit une opportunité et pas un remède à un défaut de conception. C'est-à-dire que si tous les systèmes étaient bidouillables, mais tous mal foutus, on serait bien moins avancé qu'aujourd'hui, en fait. Il faut des systèmes bien conçus, pas seulement des systèmes bidouillables. Bon, et puis il y a encore une bonne dose de narcissisme dans la nouvelle promesse. On parle d'interface bidirectionnelle faisant appel aux cinq sens sans dire pourquoi cinq sens c'est mieux que un ou deux. On parle de reconnaissance et de traduction du langage naturel sans expliquer là encore pourquoi. Et fondamentalement, en fait, en quoi est-ce que une technologie qui répondrait, enfin qui exprimerait des valeurs ou des aspirations répondrait au problème initial si le problème initial c'est l'expérience avec la technologie est insatisfaisante. Donc moi, ce que je pense qu'il faut faire, et là je suis déjà en retard, c'est finalement de s'intéresser à l'expérience, justement. Et donc s'intéresser à l'expérience, c'est s'intéresser aux gens, à leurs besoins, à leurs envies, à leurs goûts. Alors c'est compliqué parce que les gens sont très divers, les situations sont très variées, et c'est pour ça qu'on ne peut pas discuter de manière générale et qu'il faut instancier et travailler sur des personas ou d'autres façons de réfléchir sur des cas concrets. Un autre problème pour ça, c'est qu'il faut des gens pour ça, pour réfléchir à ça. Et on peut se demander, par exemple, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, pour ceux dont c'est le cas, qui s'occupe de ce genre de choses ? Qui réfléchit à l'expérience ? C'est quoi le poste ? C'est quoi le profil ? C'est où la place dans l'organigramme ? Et où est-ce que ça se passe ? Est-ce que ça se passe encore en amont, pendant la conception ? Ou est-ce que ça se passe en aval, une fois que tout est fait et qu'on s'intéresse, comme j'ai dit, aux usages ? Voilà. Et donc pour moi, le but, c'est pas de donner aux gens des technologies intelligentes qui vont agir à leur place, ce serait plutôt de leur donner les moyens d'exprimer et de développer leur intelligence, et donc de satisfaire eux-mêmes leurs aspirations et d'exprimer eux-mêmes leurs valeurs, finalement. Voilà. Et donc un dernier mot pour conclure sur ce qu'on peut faire, nous, concrètement. Alors, donc moi, je suis informaticien, moi, je suis spécialiste en interaction homme-machine. Alors, un objectif stratégique pour INRIA, en tout cas qu'on a inscrit dans le plan stratégique, vise à rendre ce qu'on a appelé l'interaction transparente. Alors, ce n'est pas apprendre au sens littéral, c'est plutôt offrir des systèmes qui vont nécessiter un effort physique et mental le plus faible possible pour que les gens puissent se concentrer sur ce qu'ils veulent faire et pas sur comment le faire. Et donc, je termine en bouclant sur la question du temps, c'est que si en fait, on permet par exemple aux gens de développer des automatismes à travers des systèmes assez bien faits, pour qu'ils puissent utiliser leur ordinateur comme ils utilisent leur voiture, par exemple, sans y penser, et ben, du coup, on leur libère du temps de cerveau pour réfléchir à des choses peut-être plus intéressantes, donc plus intellectuelles ou plus créatives. D'accord. Voilà. Et puis après, j'avais un appel. Je pense que ce genre de rencontre est très intéressant. Moi, ça fait la troisième fois que je rencontre les gens de la FING en 4-5 mois. J'espère que ça va se reproduire. On organise de notre côté aussi des manifestations. Elles ne sont pas toutes ouvertes, mais il y en a. Et il va y avoir, au mois de mai, 2000 personnes de mon genre qui vont venir à Paris. Je vous invite à vous renseigner. La chose s'appelle CAI. Et je pense que c'est très directement lié. C'est la conférence d'interaction machine de l'ACM. Donc ça a lieu du 27 avril au 2 mai à Paris. Alors c'est pas forcément très facile d'accès pour tout le monde, mais en tout cas pour les gens que ça intéresse, on s'arrangera pour que soit ils puissent venir, soit qu'ils soient au moins au courant de ce qui s'y passe, par exemple.